Je suis vraiment heureuse de vous retrouver pour ce premier message de l'année 2023. J'espère que vous avez passé un bon temps avec vos proches pendant le temps de Noël et pendant le temps du jour de l'an. Et après avoir bien profité du sucre à la crème, de la tourtière, des biscuits de Noël, de la bûche, des bons repas en famille et entre amis, vous ne serez pas surpris d'apprendre que la résolution numéro 1 au mois de janvier, l'objectif le plus populaire que les gens se fixent, c'est quoi? Perdre du poids, exactement. Et d'autres vont dire, aller au gym, c'est le but, c'est souvent de perdre du poids, de se remettre en forme. Et si c'est votre cas, vous avez un petit 5 livres du temps des fêtes à perdre. Sachez malheureusement que statistiquement parlant, après une semaine, donc aujourd'hui, on est le 7 janvier, donc ça fait une semaine, 22%, c'est aujourd'hui que ça se passe, 22% des gens échouent leur résolution. Voilà. Après 3 mois, c'est 50% des gens qui laissent tomber. Et à long terme, c'est 90% des gens qui reviennent au point de départ. Donc, je vais pas vous faire de peine, mais ça veut donc dire que votre petit 5 livres va peut-être être votre colocataire pour quelques temps encore. Donc, peut-être vous devriez l'apprivoiser. Mais voilà. Mais je crois en vous. Je crois en vous. Ce que je trouverais drôle aussi, c'est cette statistique disant que globalement, 40% des gens prennent des résolutions en début d'année. Ça veut donc dire qu'il y a 60% des gens qui n'en prennent pas. Donc, la majorité des gens n'en prennent pas. Mais si on regarde juste la tranche d'âge 18-34, c'est la proportion inverse en fait. C'est donc dire que 60% des jeunes prennent des résolutions contre les gens qui sont plus âgés, en tout cas 35 ans et plus. En résumé, plus tu vieillis, plus tu comprends que tu tiendras pas tes résolutions en début d'année. En gros, là, à 30 ans, le 1er janvier, tu te fais une planification annuelle pour réaliser tel ou tel projet, tel ou tel objectif. À 65 ans, le 1er janvier, tu manges les restants de tourtière. Amen! Yes! Puis ça fait bien ton affaire. Tout est correct pour toi. Mais en soi, c'est pas mauvais de se fixer, évidemment, des objectifs en début d'année ou en cours d'année, évidemment. Et personnellement, étant de cette fameuse tranche d'âge 18-35, j'aime bien faire cet exercice d'introspection et réfléchir à la dernière année, en fait. Me fixer aussi des choses à améliorer dans ma vie ou des projets à accomplir ou des choses que je veux mettre en place dans ma vie et dans mon caractère. Mais dans tous les cas, résolution ou pas, que ce soit le 1er janvier ou le 28 juillet, nous avons tous des projets à faire, des objectifs à atteindre dans la vie, des choses à accomplir, des choses à améliorer, des responsabilités, des tâches à faire, même à 65 ans, même à la retraite. Okay, tu as des choses à faire, tu dois être un mari, un père peut-être, une mère, tu dois aller bûcher du bois, donc tu dois faire tes tâches, tu dois continuer de payer tes comptes, etc., etc. Et ça me fascine toujours de voir à quel point l'être humain ne s'arrête jamais. Okay, pendant qu'on est en train de détruire actuellement la Terre, on est en train aussi d'explorer la planète Mars. C'est comme un petit peu ironique quand même. L'être humain ne cesse jamais de se déplacer, de se développer, d'explorer. On a exploré les continents et maintenant on explore l'espace. Ça fait partie de l'être humain parce que nous avons été créés à l'image de Dieu, un Dieu infini, un Dieu éternel, un Dieu créateur. Proverbe 19:21 nous dit « Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. » Alors, les objectifs, les projets, les responsabilités, les listes de choses à faire, ce n'est pas mauvais en soi, ça fait partie de la vie. Mais ce qui est nocif pour notre santé mentale et spirituelle aussi, c'est de subir la pression de ses responsabilités, de ses choses à faire. Est-ce qu'il y a des êtres humains dans la place? Oui, c'est bon. Ceux qui lèvent pas la main, c'est louche. On va se parler à la fin de la réunion. Si tu es un être humain comme moi, ça t'arrive parfois de sentir que tu n'es pas capable d'atteindre tes objectifs dans la vie. De sentir la pression parce que 24 heures pour toi, ce n'est pas assez pour accomplir tout ce que tu as à faire. De porter le poids de tes responsabilités au travail, dans ta famille ou envers l'Église. Et aujourd'hui, je veux vous amener à nous libérer, à vous libérer de la pression du poids de la vie. Et pour y arriver, nous allons étudier un passage dans la lettre de Paul aux chrétiens d'Éphèse, dans l'épître aux Éphésiens. Et on va le lire une première fois, et je vais y revenir tout au long du message. Mais avant, on va prier. On va prier ensemble, puis après on va se plonger dans ces textes. Seigneur Jésus, viens ouvrir notre esprit et nos cœurs. On veut se soumettre à toi, Seigneur, ce matin. Viens par ta parole, éclaire-nous, viens nous éclairer, Seigneur. Viens parler à nos cœurs, Seigneur Jésus. Nous voulons mettre aussi en application, Seigneur, qu'on puisse appliquer qu'est-ce que tu nous apprends, Seigneur, dès aujourd'hui et pour le reste de l'année, Seigneur. On te remet toutes choses entre tes mains. Amen. Éphésiens, chapitre 2, verset 1. À 10. Lisons ensemble. Quant à vous, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés que vous pratiquiez autrefois conformément à la façon de vivre de ce monde, conformément au prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui est actuellement à l'œuvre parmi les hommes rebelles. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Notre conduite était dictée par les désirs de notre nature propre. Puisque nous accomplissions les volontés de la nature humaine et de nos pensées, et nous étions par notre condition même destinés à la colère, tout comme les autres. Mais Dieu, ça c'est exceptionnel qu'on voit ça dans un texte, mais Dieu est riche en compassion. À cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il a fait cela afin de montrer dans les temps à venir l'infinie richesse de sa grâce par la bonté qu'il a manifestée envers nous en Jésus-Christ. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. En réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Amen. C'est un beau texte, hein? Comme nous venons de le voir, Dieu a créé... nous a créés pour que nous pratiquions de bonnes œuvres, que nous accomplissions les projets qu'il prépare pour nous. Mais vous remarquerez que généralement, nos objectifs sont dictés par deux choses, nos désirs et nos devoirs. Les désirs et les devoirs sont des véritables moteurs d'action pour l'être humain. Par exemple, je désire m'acheter une maison cette année, alors je vais travailler et économiser pour l'acheter. Je désire perdre mon fameux 5 livres, alors je vais manger santé et faire de l'exercice. Je dois prendre soin de ma famille, alors je vais planifier du temps de qualité avec mes enfants. Je dois chauffer ma maison en hiver, alors je vais bûcher du bois à l'automne. Le problème, c'est qu'en tant qu'être humain, ces deux éléments, nos désirs et nos devoirs, sont des pièges et des tentations. Nos désirs et nos devoirs peuvent devenir deux véritables prisons pour nous, qui nous emprisonnent, qui nous rendent esclaves et qui mettent un poids sur nos épaules. Et je vais vous expliquer pourquoi dans les prochaines minutes. Mais je vais aussi et surtout vous montrer les clés qui nous permettent de nous libérer de ces prisons et de nous libérer du même coup de la pression et du poids de nos objectifs, de nos responsabilités, de nos choses à faire, bref, du poids de la vie. Commençons donc par explorer la prison du désir que j'ai nommée. En relisant Éphésiens 2, mais juste les premiers versets, versets 1 à 3. Quant à vous, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés, que vous pratiquiez autrefois conformément à la façon de vivre de ce monde, conformément au prince de la puissance de l'air. Ici, l'apôtre Paul, il parle du diable. L'esprit qui est actuellement à l'œuvre parmi les hommes rebelles. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Notre conduite était dictée par les désirs de notre nature propre, puisque nous accomplissions les volontés de la nature humaine et de nos pensées. Et nous étions par notre condition même destinés à la colère, tout comme les autres. Ici, Paul explique qu'avant de placer sa foi en Jésus-Christ et de devenir enfant de Dieu, nous étions morts spirituellement à cause de nos fautes, à cause de nos péchés, et que nous vivions conformément à la façon du monde actuel, à la façon de vivre du monde actuel. C'est-à-dire que notre conduite était dictée par quoi? par nos désirs, les désirs de notre nature humaine, de notre chair. Nous accomplissions notre propre volonté selon nos désirs et selon notre propre pensée. Lorsque tu n'as pas soumis ta vie et ta volonté à celle de Dieu, tu vis selon tes propres désirs. Tu fais des choix et tu prends des décisions en fonction de tes désirs et de ta propre volonté. Tu fais ce que tu as envie de faire, quand tu veux le faire, de la façon que tu veux le faire, avec qui tu veux le faire. OK? Et certains vont se dire, ben, il est où le problème? Il y a le problème. Pourquoi les désirs peuvent être une prison? C'est pas justement ça, la liberté, faire ce qu'on veut quand on veut. Très bonne question. Ça a l'air d'être ça, la liberté. Ben non. Faire ce que tu veux revient à devenir esclave de tes propres désirs et de tes pulsions. Faire ce que tu veux te rend esclave de toi-même. Tu deviens ton propre maître, mais on est de bien mauvais maîtres pour savoir, pour discerner ce qui est bien ou ce qui est mal. Et en plus, ce qui est particulier, c'est que nos désirs seront éternellement insatisfaits. À part Dieu, il n'y a rien d'assez grand pour combler le vide à satisfaire dans le cœur de l'être humain. Et notre société de consommation en est un des meilleurs exemples. Je suis toujours fascinée par les gens très riches. On dirait que je trouve ça plus agréable de regarder tout ce qu'ils ont. Je sais pas, c'est peut-être un peu bizarre, là, ça. Mais bon, je trouve ça quand même fascinant. On dirait que c'est comme un autre monde. Ils vivent sur une autre planète. Et pourtant, c'est juste la suite logique des choses, OK? Imaginez, on fait ça ensemble, là. Imaginez faire un peu plus d'argent, OK? Tu connais ton salaire annuel, là, vous l'avez en tête. Imagine faire un peu plus d'argent, on va dire 5 000, 10 000 $. Peut-être que tu t'achèterais une meilleure machine à café. Okay, tu boirais du meilleur café. Tu ferais peut-être des rénovations dans ta maison. Tu changerais peut-être pour une voiture électrique. De toute façon, on n'aura pas le choix dans pas long. Mais imagine faire encore pas mal plus. Okay, on va dire 500 000 par année. Quand même pas mal plus, là, j'imagine. Là, ça commence à être le fun. Peut-être que tu t'achèterais une maison secondaire dans un autre pays. Que tu voyagerais davantage, que tu mangerais dans les meilleurs restaurants du monde. Tu t'achèterais des vêtements de designer, des sacs Prada, etc. Mais imagine maintenant faire vraiment plus d'argent, un peu comme Cristiano Ronaldo, okay, qui vient d'accepter un contrat de 200 millions d'euros par an, ça veut dire 286 millions canadiens. Okay, alors que le salaire minimum au Québec est de 14,25 $, ben notre monsieur Cristiano, lui, fait 33 000 $. OK? On appelle ça un salaire annuel, 33 000 $. Donc, lui, il fait ça de l'heure. Alors, lui, il n'a pas seulement une maison secondaire, il en a 6. Il mange pas seulement dans les meilleurs restaurants, il les possède. C'est lui le propriétaire, c'est pas compliqué. Il n'a pas juste un bateau, il a aussi un jet privé, etc. Etc. Ça n'arrête jamais. Plus on en a, plus on en veut. Et c'est ça avec presque tout, avec la sexualité, avec le plaisir, les divertissements. Si vous faites une liste des choses à écouter pour sur Netflix pour l'année 2023, ben l'année d'après, il va en avoir d'autres. C'est infini, infini, infini. Ça veut pas dire que c'est nécessairement des choses mauvaises. La sexualité, c'est pas quelque chose de mauvais. Le divertissement ou les plaisirs, ben Dieu a créé des choses aussi pour qu'on puisse avoir du plaisir, c'est correct. Mais le problème, c'est que ça pourra jamais être satisfait, en fait. Ça ne pourra jamais nous satisfaire. Et ça devient une prison si tu fais de tes désirs les objectifs de ta vie. Ça viendra jamais remplir à l'intérieur de toi. Et j'entends des gens me dire, ben, voyons, Dieu, il est bien plate d'abord. Il veut pas que je fasse ce que je veux. Tu sais, c'est plate. Je peux comprendre. Mais en fait, il t'aime tellement qu'il veut te donner le meilleur. Mais c'est lui qui sait ce qui est mieux pour toi. C'est lui qui le sait. Il est Dieu. La vraie liberté n'est pas de faire ce que l'on veut, mais de faire la volonté de Dieu. Parce que Dieu sait ce qui est bon pour toi. Et aussi parce que ça te décharge, ça m'a frappé cette semaine, ça te décharge de la responsabilité de décider de ce qui est bon et mal. Ça te décharge et cette responsabilité, on n'est pas capable de faire ça. Il n'y a rien de plus libérateur que de soumettre sa volonté, et c'est difficile, mais il n'y a rien de plus libérateur que ça. C'est pas parce que c'est difficile que c'est pas libérateur. De soumettre sa volonté et ses désirs à Dieu, parce qu'alors tu ne vis plus avec le poids de tes décisions, de tes choix, de toutes les possibilités qui s'ouvrent à toi. Si tu sais que tu fais la volonté de Dieu, en 2023, tu vas être libre, tu vas être béni. Amen. En parlant de poids, si tu veux maigrir, avoir des sacs de chips à la maison, c'est peut-être pas la meilleure idée. Petit conseil. Ou des gâteaux Vachon, ça dépend si t'es du côté salé ou sucré. Moi, mon combat, il est salé. Donc, sur le coup, quand je désire ardemment des chips, ben, j'en ai pas de sac de chips, à part dans le temps des fêtes, justement. Voilà. Mais, quand je désire des chips ardemment, ça me paraît être la meilleure chose au monde. Évidemment. Ou les gâteaux Vachon. Mais Dieu sait, lui, qu'est-ce que les chips contiennent. Okay? Lui, il sait exactement. C'est lui qui a créé les patates et le gras. Donc, il est au courant. Il sait combien il y a de grammes de gras là-dedans. Il sait aussi l'impact que ça peut avoir sur moi à long terme, sur ma santé. Et sur le coup, tu penses peut-être que, par exemple, ton désir d'acheter ardemment, impulsivement quelque chose en ligne, ça va satisfaire ton cœur. Ou boire ce verre de trop, ou écouter cette vidéo porno. Tout ça peut te sembler bon sur le coup, mais Dieu, lui, il sait qu'est-ce qui est meilleur pour toi. Et c'est important, comme j'ai dit tantôt, de comprendre que tous les désirs ne sont pas mauvais en soi. Les désirs font qu'on est des êtres humains, qu'on progresse, qu'on crée, qu'on fait des projets, qu'on rêve. Mais puisque nos désirs sont souvent trompeurs et que nous sommes pas des bons juges, en fait, pour juger de ce qui est bien ou mal, ou de ce qui est bien et meilleur. Parfois, Dieu nous met devant deux choix qui sont bons, qui sont pas mauvais en soi, mais Dieu, il y a quelque chose de meilleur peut-être pour nous. Le meilleur, discerner le bien du meilleur, ça, il y a juste Dieu qui peut nous dire. Et pour y arriver, tu dois soumettre tes désirs à Dieu pour trouver la vraie liberté en faisant la volonté de Dieu. La clé pour se libérer de la prison du désir, c'est de se dire: si Dieu le veut, je ferai ceci ou cela. La clé pour se libérer de la prison du désir, c'est de dire, retenez cette phrase-là. Il va y avoir deux phrases clés à retenir aujourd'hui. Et la première, c'est celle-ci. Si Dieu le veut, je ferai ceci ou cela. Si Dieu le veut. L'apôtre Jacques a dit au chapitre 4, 13, 15. À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année. Nous y ferons des affaires et nous gagnerons de l'argent. On dirait, ça ressemble à des résolutions, ça. Cette année, nous ferons ceci. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. En effet, qu'est-ce que votre vie? C'est une vapeur qui paraît pour un instant et qui disparaît ensuite. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. La clé pour te libérer de la prison de tes désirs, c'est de présenter ton sac de chips devant Dieu. Okay? Par exemple, Seigneur, je désire acheter une maison cette année, mais je présente ce projet devant toi et je suis prête à obéir à ta réponse. Je le présente de façon humble. Je suis prête à accueillir ta réponse. Si Dieu le veut, nous ferons ceci ou cela. Si Dieu le veut, nous achèterons une maison. Jésus était 100% homme, 100% Dieu, mais 100% homme aussi. Lui-même, il avait des désirs. Il était un homme comme nous. Mais il soumettait sa volonté à Dieu, à son Père. Jésus aurait préféré être épargné de la souffrance de la croix. Je pense qu'on est d'accord, on aurait tous voulu être épargné de la souffrance de la croix. Mais par-dessus tout, il voulait faire la volonté de son Père. Dans Luc 22, 42, Jésus prie ceci, il dit, « Père, si tu voulais éloigner cette coupe de moi, » il parle de la croix ici, « toutefois, que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne. » Jésus a fait cette chose-là, a fait cette prière. Il a dit, « Si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. » Et le proverbe que j'ai lu tout à l'heure, il n'était pas complet. En fait, je vous ai lu juste la moitié du proverbe. Ça disait, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le plan de l'Éternel qui s'accomplit. C'est le plan de l'Éternel qui s'accomplit. Un peu dans le même sens, proverbe 16, 1 à 3 nous dit, l'homme fait des projets, mais celui qui a le dernier mot, c'est l'Éternel. Vous pouvez penser que tout ce que vous faites est bien, mais c'est l'Éternel qui apprécie vos motivations. C'est lui qui voit nos cœurs. Recommande tes œuvres à l'Éternel et tes projets se réaliseront. Ça ne veut pas dire de rien faire et de pas rien désirer, non, mais présente-les devant ton Dieu et lui, il va te diriger. Recommande tes œuvres à l'Éternel et tes projets se réaliseront. Présente tes désirs devant Dieu pour la nouvelle année et tout au long de ta vie et soumets-toi à sa volonté. Désire, planifie, rêve, mais soumets ta volonté à Dieu. Laisse Dieu avoir le dernier mot dans ta vie et tu vas découvrir la vraie liberté et le bonheur. Est-ce qu'il y en a qui le croient? Amen. Le deuxième danger dans la vie, c'est de s'emprisonner dans la prison du devoir. Le devoir, OK, ça peut paraître quelque chose de très noble. Quelqu'un pourrait penser que les objectifs qui viennent des devoirs sont mieux que ceux qui viennent des désirs. Okay? Quelqu'un pourrait se croire supérieur de dire « Cette année, je dois être plus aimable. » En comparaison avec quelqu'un qui se dit « Cette année, je veux m'acheter une motoneige. » Okay? Lui, là, il va se dire « C'est tellement égocentrique et superficiel. » Mais voici pourquoi les devoirs peuvent également devenir une prison pour nous. Lisons ensemble Éphésiens 2, chapitre 3 à 10. On revient à notre texte. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Notre conduite était, avant qu'on donne notre vie à Jésus, était dictée par les désirs de notre nature propre, puisque nous accomplissions les volontés de la nature humaine et de nos pensées. Et nous étions, par notre condition même, destinés à la colère, tout comme les autres. Mais Dieu, voilà que Dieu entre dans l'affaire, est riche en compassion. À cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendu la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il a fait cela afin de montrer dans les temps à venir l'infinie richesse de sa grâce par la bonté qu'il a manifestée envers nous en Jésus-Christ. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Paul en rajoute encore, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous en plus, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne puisse se vanter. En réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ. Nous sommes une créature nouvelle pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Wow! Quel beau résumé du plan du salut que Paul nous fait ici. On pourrait appeler ce passage la leçon 101 de la grâce de Dieu. C'est juste incroyable ici. À cause du grand amour dont il nous a aimés. En d'autres termes, Dieu a fait tout ça par amour pour nous, d'envoyer son Fils payer le prix de nos fautes. Nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendu la vie. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Il a fait cela afin de montrer l'infinie richesse de sa grâce. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, par le fait que tu crois, que tu places ta confiance et ta fidélité en Jésus-Christ. Et cela ne vient pas de vous, cela vient de Dieu. C'est un don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres afin qu'une personne ne puisse se vanter. Quelle grâce incomparable, comme on l'a chanté ce matin. Et certains croient qu'en parlant trop de la grâce de Dieu, ça pousse les chrétiens à ne plus rien faire. Parce que si nous sommes sauvés par la foi, les œuvres ne sont plus importantes en fait. Mais c'est pas du tout ce que Paul dit ici. Paul dit que nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais pour des œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions pour des œuvres. C'est pas parce qu'on est sauvé par la grâce que nous n'avons plus rien à faire après. De l'autre côté, il arrive souvent que, comme chrétiens, et c'est une tendance humaine, nous savons que nous sommes sauvés par la grâce, mais c'est comme si après on se disait, OK, ben maintenant, il faut que je me débrouille tout seul. Par mes propres forces pour pratiquer ses œuvres, pour ressembler plus à Jésus. Là, j'ai été sauvé, mais là, il faut que je ressemble plus à Jésus. Ah ouais, let's go. Cette année, je dois être plus comme lui. Cette année, je dois être plus généreuse ou généreux. Je dois arrêter d'écouter de la pornographie. Je dois être un meilleur père. Je dois faire plus d'exercice. Je dois manger mieux. Je dois être plus productif, mais je dois aussi plus me reposer. Je dois faire plus de bonnes œuvres, mais j'y arriverai jamais. Je suis incapable de faire tout ça. Est-ce qu'il y en a qui se reconnaissent parfois dans ce genre de discours? J'y arriverai jamais! Mais voici la seule façon de te libérer de la prison du devoir, la prison de la loi, la prison du légalisme. Réaliser que tu n'es pas capable de faire quoi que ce soit de bon sans Dieu. Le devoir devient une prison parce qu'il nous éloigne de la grâce de Dieu. Nous sommes sauvés par la grâce, mais n'oublions pas que par la suite, nous devons vivre chaque jour par la grâce de Dieu. C'est seulement par sa grâce, par sa force, par Jésus que nous pouvons accomplir des bonnes œuvres auxquelles il nous appelle. Paul dit ceci dans Galates, chapitre 2, 20, jusqu'au chapitre 3, verset 3. J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, on le chante aussi. C'est Christ qui vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, en effet. Si la justice s'obtient par la loi, alors Christ est mort pour rien. Galates sans intelligence, c'est une autre traduction, on dit Galates stupide. Qui vous a fasciné ou qui vous a comme apporté dans les discours autres pour que vous n'obéissiez plus à la vérité? Vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été décrit comme crucifié, voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce en pratiquant les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou en écoutant l'Évangile avec foi? Manquez-vous à ce point de bon sens? L'autre traduction dit « Êtes-vous stupide à ce point? » Après avoir commencé par l'Esprit, après avoir été sauvé par la grâce, voulez-vous maintenant finir par vos propres forces? Wow! Il ne va pas avec le dos de la cuillère. Il parle ici, c'est dans un contexte aussi où il parle de la loi juive. Mais ça s'applique à nous aussi aujourd'hui, de notre façon. Selon Paul, c'est stupide et insensé de croire qu'on peut arriver à vivre la vie, à marcher la marche chrétienne par nos propres forces. C'est par la grâce que nous sommes sauvés et c'est Christ qui vit en nous, qui nous permet d'accomplir la volonté de Dieu dans nos vies et sur la terre. Quelqu'un peut dire amen? Dans mon titre de message, vous avez remarqué que j'ai mis un point d'interrogation. Incapable d'atteindre tes objectifs. Et si j'avais été un coach de vie ou que vous aviez été dans une conférence de développement personnel, je vous aurais dit, tu te sens incapable d'accomplir tes objectifs. Voici 3 étapes faciles pour arriver à être plus productif en 2023. Ou encore, voici la façon de trouver en toi la force dont tu as besoin pour accomplir tout ce que tu veux dans la vie. On est des super-héros, ouais! Mais voici comment il fallait plutôt lire mon titre, OK? Toi aussi, tu es incapable d'atteindre tes objectifs, point d'interrogation, et la réponse se trouve en enlevant le point d'interrogation. Effectivement, je suis incapable d'atteindre mes objectifs, de faire tout ce que j'ai à faire, de vivre comme Jésus, j'en suis incapable par mes propres forces. La seule façon de se libérer de la prison du devoir et de la loi, c'est de t'emparer de la grâce de Dieu pour vivre chaque jour de ta vie. De lui dire aujourd'hui, j'y arriverai pas sans toi. J'y arriverai pas sans toi. Cette année, j'y arriverai pas sans toi. Et certains vont voir du fatalisme dans cette façon de penser, comme si nous ne pouvons rien accomplir, OK? Bon, ben là, comme si j'étais en train de vous dire, ben retournez vous coucher chez vous, puis mettez-vous en boule, puis pleurez jusqu'à l'année prochaine. C'est tout ça que je suis en train de dire? Bien, non. C'est pas fataliste parce que il y a une autre partie aussi de la réponse qui est juste incroyable. Paul va dire en Philippiens 4:13, « Je peux tout par celui qui me fortifie, Jésus-Christ. Je peux tout par celui qui me fortifie. Tout! Tout! C'est extraordinaire. L'être humain est capable de choses incroyables. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Nous pouvons tout, mais par celui qui nous fortifie, par Jésus-Christ. » La clé pour se libérer de la prison du devoir, c'est de dire ceci, notre deuxième phrase clé ce matin. Je suis incapable de faire ceci ou cela, mais je peux tout par celui qui me fortifie, Jésus-Christ. Je suis pas capable, mais j'y arriverai par la grâce de Dieu. Je suis incapable de vaincre mon découragement, mais je peux tout par celui qui me fortifie. J'y arriverai par la grâce de Dieu. Je suis incapable d'accomplir toutes ces tâches qui se dressent devant moi, mais je peux tout par celui qui me fortifie. J'y arriverai par la grâce de Dieu. Je suis incapable de me libérer de mon addiction, mais je peux tout par celui qui me fortifie. J'y arriverai par la grâce de Dieu. Et ceux qui ont déjà expérimenté la grâce de Dieu, pouvez-vous applaudir sa grâce, son œuvre en nous, la grâce de Dieu? Amen. Et quand je réfléchissais à ce point, je voyais Jésus qui marchait à nos côtés, comme lors d'une randonnée. Et je nous voyais avec un sac à dos qui représente le poids de nos vies. Et ceux qui ont déjà fait de la randonnée, vous savez à quel point c'est plus difficile, évidemment, de marcher avec un sac à dos qui est lourd. C'est beaucoup plus facile de marcher avec quelque chose de léger ou même rien du tout. Et je vais avoir besoin d'un volontaire. Quelqu'un, un volontaire pour venir porter quelque chose? Allez, allez. Ah, tu veux. Ah, Charles, ah, ouh, ah, le premier à arriver. OK, Charles, viens. On peut l'applaudir, l'encourager, ouais. OK, ben tu représentes Jésus aujourd'hui. Bon, c'est une grosse tâche, pour toi, c'est un gros poids, mais tu es juste...
dans ma vie.
T'es juste à tenir, oui, c'est vrai, hein, parce que tu as fait la crèche vivante quand il était bébé. Voilà, je connais l'histoire. Et tu peux juste garder ça, ce sera pas très compliqué ce que tu vas avoir à faire aujourd'hui. Tu as juste à garder ça, puis je vais donner des choses à porter quand même. Mais je voyais comme si... non, en fait, je commence avec... Puis je vais te le donner après, excuse-moi. C'est moi, je suis déstabilisée. Je nous voyais comme en randonnée avec Jésus. Puis un jour, tu décides de donner ta vie à Jésus. Tu dis, Jésus, je te remets le poids de mes fautes, le poids de mon passé, le poids de ma vie, je te le remets, je veux que tu le portes à ma place. Et Jésus va le faire à la croix, il l'a accompli, il va prendre le poids de ta vie, il va le prendre sur ses épaules pour toi. Et là, tu vas commencer à marcher avec Jésus. Tu vas commencer à vivre ta vie chrétienne, à vivre la vie. Mais la vie continue, puis les défis, même si on est chrétien, ils continuent d'arriver, hein. Fait que t'es à côté de Jésus, fait que là, il va se passer quelque chose, un événement, un deuil, une maladie, quoi que ce soit. Tu vas te dire, ah, Jésus, je te le donne. Puis tu vas prendre le poids de cette épreuve-là, de ce défi-là, et tu vas le redonner à Jésus. Un autre, tu vas lui donner, vous continuez de marcher ensemble, puis au fur et à mesure, tu commences à lui donner ça. Mais à un moment donné, tu veux, des fois ça va bien, puis tu te dis, ben je vais faire un peu marcher à mon propre rythme, je vais peut-être prendre un peu plus d'indépendance, puis finalement tu marches devant lui, tu prends les devants finalement. Mais le problème, c'est que tu continues d'accumuler le poids de la vie. Et là, il y en a des plus difficiles que d'autres, OK? Tu continues d'accumuler, mais Jésus, il est là, puis dans le fond, tu le portes toi-même parce que tu l'as laissé en arrière, Jésus. Tu continues, mais ouais, c'est finalement, c'est pas facile, hein? Des briques. Le poids de la vie, tu continues. Puis il est loin, il peut pas le porter pour toi parce que tu t'es éloigné de lui. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, t'es trop fatigué, puis que tu t'écroules, puis que tu te rends compte que t'es incapable de marcher sans Jésus. Mais à chaque moment, tu peux retourner à lui, puis lui donner le poids de ton défi, le poids de ta vie. Tu peux lui donner, puis il va le prendre. Puis tu peux continuer de marcher ta vie auprès de Jésus. Il va le prendre à ta place pour ta randonnée de la vie qui est pas facile. Il va prendre le poids, pas seulement de ta vie. Ça veut pas dire que t'étais pas sauvé. T'es sauvé. Il avait ton sac à dos. Il avait ta vie. Mais le poids de toutes tes responsabilités, de tous tes projets, de tout ce qui peut se passer dans ta vie, de tes défis, Jésus veut continuer de le prendre pour toi. Amen. Merci, Charles. On peut l'applaudir. Jésus veut que tu lui remettes le poids de tes péchés pour être sauvé par sa grâce. Mais il veut que tu continues de marcher à ses côtés en réalisant que tu as besoin de sa grâce à tous les jours pour accomplir les œuvres qu'il a préparées pour toi. Et ça m'amène à ma conclusion pendant que les musiciens s'approchent. Je vous ai parlé de ces deux éléments qui pouvaient facilement devenir des prisons pour nous, hein. Nos désirs et nos devoirs qui sont pas en soi nécessairement des mauvaises choses, mais pour les êtres humains, ça peut être des pièges. Ça peut devenir des prisons. Et la clé pour se libérer de la prison du désir, pour soumettre notre volonté à celle de Dieu, c'est de dire, si Dieu le veut, je ferai ceci ou cela. Et la clé pour se libérer de la prison du devoir, c'est d'admettre « Je suis incapable de faire ceci ou cela, mais je peux tout par celui qui me fortifie. J'y arriverai par la grâce de Dieu. » Et dans les deux cas, c'est pas des formules magiques. C'est pas des formules... C'est vraiment important ici. Okay? C'est pas des formules magiques. C'est des prières sincères que tu adresses à Dieu. Ce sont des dispositions de cœur qui ne sont possibles qu'en étant en communion avec Dieu, avec ton Père. En fait, c'est Jésus qui dispose des deux clés. Ces deux clés dont j'ai parlé pour déverrouiller, là, c'est lui qui les a dans les mains. Tu dois aller directement à lui pour aller les chercher. Tu veux avoir la clé de la prison du désir, t'assurer que tes désirs concordent avec ceux de Dieu. Proverbe 37:4 nous dit, « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » En d'autres termes, place Dieu en priorité dans ta vie. Fais de Dieu le plus important. Prends plaisir dans sa présence. Il va te donner ce que ton cœur désire parce que tes désirs dans sa présence vont s'aligner de plus en plus avec les siens. Plus tu es proche de Dieu, plus ton cœur se transforme comme le sien. Plus tu désires les mêmes choses que Dieu. Et qu'est-ce que ça veut dire passer du temps dans sa présence? Ça veut dire méditer sa parole. On dit parole, c'est les paroles de Dieu. C'est sa parole, il se révèle par ça. Ça veut dire prier, lui parler. Écouter des chants de louange, te mettre dans cette ambiance-là d'adoration. Prendre une marche dehors pour prier, pour remercier Dieu, pour être dans la joie et dans la reconnaissance. Aller à l'église pour lui rendre un culte, le louer avec toute la communauté. Aller dans un petit groupe pour consolider ces bases-là. Et c'est la même chose pour vivre tous les jours par la grâce de Dieu, comme dans mon illustration du randonneur. Si tu veux remettre le poids de ta vie, de tes responsabilités, de tes tâches, de tes objectifs, tu dois marcher à ses côtés pour pouvoir lui donner tout ça. Tu dois être à côté de lui pour pouvoir lui donner. Chaque matin, lui dire « Ouf, aujourd'hui, j'y arriverai pas. » Ça se peut que tu pries cette prière-là pendant des mois parce que tu vis vraiment quelque chose de particulièrement difficile. Si ton but premier dans la vie, si ta priorité, si ta première résolution, c'est ta relation avec Dieu, tout le reste dans ta vie va suivre. Tout le reste dans ta vie va suivre. Si tu mets cette seule chose sur ta liste pour 2023, développer ta communion avec Dieu, Jésus va te donner les clés pour te libérer de tes mauvais désirs et de la lourdeur de la vie qui peut peser sur toi. J'aimerais qu'on se lève ensemble, on va terminer avec ce chant d'adoration, mais... Je veux prier pour ceux qui, premièrement, voudraient dire « Ok, Seigneur, cette année 2023 et pour le reste de ma vie, je veux te mettre en priorité. J'ai pas fait des choix qui t'ont mis en priorité dans ma vie. Je veux passer plus de temps dans ta présence. Je veux faire en sorte que ça paraisse dans mon horaire que j'ai une relation avec toi parce que je vais avoir pris du temps pour toi, dans ta présence, pour l'Église, pour ta parole, pour la prière. » Je veux prier pour ces personnes-là qui veulent mettre Dieu en priorité. Je pense qu'on devrait tous répondre à cet appel de dire « Oui, je mets Dieu en priorité. » En tout cas, moi, je dis « Oui, la première. » Je veux prier aussi pour ceux qui veulent placer devant Dieu en cette année 2023. C'est bien de le faire aussi en début d'année. On est dans ce moment d'introspection parfois. Ceux qui veulent placer leurs désirs devant Dieu, comme notre sac de chips, OK? Je veux que pendant ce temps de louange, tu puisses t'imaginer ce que tu déposes aux pieds de Jésus. Et tu lui dis, Seigneur, voici tel désir. Voici tel enjeu aussi. C'est peut-être un désir que tu sais qui n'est pas bon. Une addiction ou quoi que ce soit. Ou ça peut être un désir, un projet que tu as. Présente-le devant Jésus avec humilité pour savoir qu'est-ce qu'il veut, quelle est sa volonté. Quelle est sa volonté à ce sujet-là. Présente-le devant lui et dis, si tu le veux, je ferai ceci ou cela. Et je veux finalement aussi prier pour ceux qui veulent présenter un devoir devant Dieu. Un devoir, c'est-à-dire quelque chose qu'ils savent qu'ils doivent faire cette année ou dans les prochains temps. Je veux prier pour toi qui veux déposer ça devant la croix, à la croix de Jésus, et que tu réalises que Jésus porte ce poids, le poids de cette chose-là pour toi, à ta place. Je veux que tu puisses te dire, je suis incapable de faire ceci ou cela. Je te le présente, Seigneur, mais je peux tout par celui qui me fortifie, par ta grâce, je vais y arriver. Seigneur, je te prie pour tous ceux qui veulent te placer, Seigneur, te placer en priorité. En fait, je te prie pour que Saint-Esprit, tu puisses parler à chacun des cœurs et qu'on ait tous ce désir, Seigneur. Ce désir de te mettre en priorité, Seigneur, parce que nous dépendons entièrement de toi, Seigneur. Notre bonheur, notre joie, notre paix dépend entièrement de toi, Seigneur. Je veux te prier, Seigneur, de sceller, de protéger ces moments, cette décision que nous allons prendre ce matin, de dire oui, je te place en priorité dans ma vie, Seigneur. Seigneur, viens protéger, fais que nous puissions être responsables, Seigneur, qu'on puisse marcher par la suite dans cette décision, Seigneur, qu'on puisse s'y tenir. Viens consolider, enraciner, Seigneur, cette décision pour l'année 2023. Je veux prier, Seigneur, aussi qu'on puisse abandonner, Seigneur, devant toi nos désirs et nos devoirs. Seigneur, nous venons avec ce poids, avec ces choses que nous te présentons, Seigneur, en offrande devant toi. Et je te prie que nous puissions vivre ta liberté ce matin. Viens donner un vent, Seigneur. Viens souffler ton vent de liberté dans cette salle pour que nous repartions avec un fardeau qui est léger, Seigneur, parce que tu dis que ton fardeau, il est léger, Seigneur. Viens enlever le poids des épaules. Donne-nous ta paix et ta joie, Seigneur, ce matin, alors qu'on vient déposer devant toi nos désirs et nos devoirs.